Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 25 septembre 1997 à Saint-Jeudard.
Après avoir précisé que si nous recherchons la vérité, conformité de ce que nous pensons, seule une philosophie qui recherche la vérité en respectant que la réalité, ce qui est, mesure mon intelligence. Cette philosophie qu'on appelle la philosophie réaliste. On pourrait dire la philosophie de la réalité, de la vérité. Seule qui peut être servante de la parole de Dieu, de la parole inspirée, reçue dans la foi, c'est celle-là que l'Église, de fait, a toujours considérée. Se battre et montrer que la seule philosophie qui respecte l'homme et qui peut connaître l'homme dans toute sa force, c'est une philosophie qui respecte la réalité. Une telle philosophie Aristote s'est trouvé en face de Platon. Aristote a renversé consciemment et avec netteté l'ordre platonicien qui faisait que les idées, les formes idéales étaient premières et mesuraient la réalité. Pour Dieu, c'est comme ça, mais pas pour l'homme. Pour Dieu, les idées de Dieu sont la mesure du réel. ça que la relation est ou une relation de raison ou une relation réelle. Elle est toujours relation. C'est ça qui est très étonnant. Tandis que l'être de raison n'est plus l'être en acte existant. L'être de raison, l'universel, qui est un être de raison, n'existe que dans ma pensée. Une philosophie réaliste cherche à connaître ce qui est et non pas ce qui pourrait exister. Elle ne cherche pas le possible. Elle cherche à connaître l'homme qui est. Elle peut évidemment s'intéresser au possible, surtout en philosophie de l'art. Mais autrement, ce qui l'intéresse, c'est l'homme tel qu'il est. Cette philosophie réaliste qui part de l'expérience et de l'expérience la plus simple qui soit, l'alliance de l'intelligence et du toucher, en faisant grande attention de ne pas se laisser séduire par l'imaginaire. Grand ennemi d'une philosophie réaliste, c'est l'imaginaire. C'est le possible. Ça pourrait être autrement. La philosophie qui cherche la vérité est toujours très attentive à ce contact direct de l'intelligence et de la réalité. Descartes, qui cherche la certitude, voit que cette alliance de l'intelligence et du toucher et des sens, cette expérience peut nous tromper. Et par le fait même, ce n'est pas là où il faut chercher le point de départ. Il faut chercher un point de départ là où on a la plus grande certitude, la connaissance de soi, le cogito. Je pense à quoi ? À moi. C'est donc cette expérience la plus fondamentale. Ceci est. C'est cela qui est l'alliance de l'intelligence et du toucher. Parce que ce qui est, c'est ce que je vois, c'est ce que je touche, c'est ce que je mange, c'est ce que je sens, c'est ce que j'entends. l'intelligence et l'ouïe aussi. L'intelligence et le toucher, les hallucinations sont beaucoup moins fortes. Elles existent aussi. Et elles peuvent exister. Dans les cauchemars, on est coupé du réel. Devient le passage du cauchemar à la réalité. C'est très intéressant.
Vous intéressez aux arrêts.
regarder. Faut d'abord la regarder et la connaître par une, un aspect de description. Alors pour ça, ce serait bien d'en avoir de plusieurs espèces. Pense à ma vieille tante. Voyez, l'affectivité est d'ordre utile. J'avais complètement oublié quand elle était encore jeune. Mais comme elle vit avant moi, j'ai des chances de survivre à sa mort. C'est très curieux, nos connaissances internes sont toujours secondes. De sorte que le philosophe ne peut s'appuyer en premier lieu que sur les connaissances externes, les expériences externes, qui impliquent le jugement d'existence, tandis que les connaissances internes n'impliquent pas toujours le jugement d'existence. Quand vous vous réveillez dans un cauchemar, vous essayez, ou vous le faites de vous-même pour sauver votre peau. Ah, c'est un cauchemar. Ah, c'est un rêve. Cette expérience que vous pouvez faire tous les jours, entre l'expérience interne enfermée dans l'imaginaire et l'expérience externe qui touche la réalité. Alors, l'expérience interne, on l'appellera intentionnalité. Et l'expérience externe, ceci est, quand vous aimez quelqu'un, c'est de l'ordre de l'intentionnalité. Et vous voulez savoir si l'autre personne que vous aimez vous aime. Ah, curieux. Pour pouvoir vérifier si mon amour est imaginatif. Seul le jugement d'existence parle ceci est. Une philosophie réaliste regarde l'homme dans toutes ses dimensions. La première chose que je constate pour l'homme et qui pour moi est le plus clair, philosophie du travail, c'est de fait ce qui prend ordinairement. Ce qu'il y a de plus étendu dans ma vie humaine, le travail, cette sorte de bêtise humaine qui fait que très vite, on envoie à l'école d'une bêtise humaine les années où je pourrais jouer. On m'oblige à aller à l'école pour lire, comme c'est important. Étonnant, mais nos arrière-arrière-arrière-arrière-grand-pères n'ont pas été comme ça à l'école. Et en Afrique, on a encore cette expérience. C'est curieux, hein. L'humanité a fait un choix. Et tout le monde est suivi. Je ne veux pas contester ce choix, mais il faut simplement en prendre conscience. Quand je veux être absolument libre, non, vous avez été à l'école. Et vous avez été à l'école parce qu'on vous a dit d'y aller. Et si vous ne vouliez pas aller à l'école, vous avez fait venir à la maison quelqu'un qui vous a appris à lire, qui vous a appris à écrire. Or, l'écriture, c'est artificiel, c'est pas naturel. Donc vous avez commencé par votre éducation, par l'artificiel. Ce n'est que longtemps après que vous avez compris que c'était artificiel, quand vous avez vu la première écriture dans les grottes. C'est extraordinaire. Artisanale s'est faite Je trouve ça très très joli, moi. l'origine de l'art. Il y a premièrement philosophie de l'art, philosophie du travail, ou le passage du mythe au logos, Prométhée. Nous avons tous l'expérience du travail. Selon les pères de l'Église, la paresse, c'est le vice le plus terrible qui soit, celui qui ne veut pas travailler, celui qui aime mieux de se croiser les mains, non pas pour prier, mais pour imaginer. Et au bout d'un certain temps, il ne veut plus travailler. C'est artificiel le travail. Ce qui est naturel, c'est de se laisser docilement se mettre dans un rythme qui est le rythme naturel, dans un bon fauteuil qui est artificiel, mais ça ne veut rien. Secondement, seconde expérience, l'amour. J'aime le travail, mais le travail n'est pas l'amour. Et à partir de cette seconde expérience, je découvre comment l'homme peut dominer la nature par l'art, par le travail, et comment l'homme peut rencontrer son semblable en l'aimant. Il y a une expérience toute nouvelle. Ce n'est pas par le travail de l'éducation, de l'instruction, que je connais le mieux l'homme. C'est en travaillant avec lui. Deux grandes expériences humaines fondamentales, tout naît, la philosophie de l'art, philosophie éthique. L'éthique ne naît pas à partir du travail. C'est très curieux. L'éthique, la morale, naît à partir de la responsabilité à l'égard d'un autre homme. Parce que je l'aime. En l'aimant, j'ai une influence sur lui. Et cette influence est bonne. Nous travaillons ensemble. J'apprends à celui qui est plus jeune que moi à travailler. Et je ne peux le faire que si je l'aime. Autrement, ma relation avec lui sera une relation violente, tyrannique. Troisième expérience, c'est justement cette expérience de la coopération dans le travail, dans l'amour, l'aspect politique. Voilà les trois philosophies. L'aspect politique. L'homme s'unit à l'homme pour pouvoir être plus efficace, pour travailler mieux. Nous faisons toujours ces trois grandes expériences fondamentales. Toute la philosophie repose sur ces trois parties de la recherche de l'homme. Cherchez bien. Vous n'en trouverez pas d'autres. Parce que l'aspect communautaire, l'aspect politique est fondamentalement la famille. C'est là où la coopération de l'homme est la plus forte, la procréation. C'est fondamental, c'est premier, et c'est dans la famille que la première éducation se fait, le premier travail se fait, et c'est dans la famille aussi que l'amour d'amitié garde tout son réalisme. Le bien commun, la découverte du bien commun. Et à partir de là, il y a un moment très important. C'est que l'homme s'aperçoit, découvre, expérience interne, que la découverte de la vérité est capitale pour sa vie d'homme, pour le développement de son intelligence. Il découvre que l'intelligence a son activité propre. L'intellect séparé, que dira Aristote. Je peux chercher la vérité pour la vérité, à la différence de ces trois grandes expériences où je ne cherche pas la vérité pour la vérité. Oui, l'expérience du feu. En cherchant le feu à l'origine, c'était vouloir connaître le feu et pas l'utiliser. Alors ce qu'on demandait, c'était l'utiliser, connaissance prudentielle. On est en retard, il faut un feu magnifique. Attention, un feu magnifique à l'état pur, qui sorte de son jaillissement. Oui, c'est très intéressant pour voir comment de la connaissance pratique va apparaître la connaissance dite spéculative. Et ceci pour nous, je dis bien pour nous, hommes, de la fin du XXe siècle. Cette distinction est capitale pour comprendre qu'il peut y avoir dans l'homme, naturellement, une vie contemplative. La contemplation qui finalise le développement de mon intelligence et de mon cœur présuppose que j'ai compris la distinction entre la connaissance pratique du travail, de l'amour d'amitié, de la politique, de la coopération, et la connaissance de la recherche de la vérité pour elle-même. Et cette connaissance dite spéculative va regarder en premier lieu ce qui, pour moi, est ce qui est au point de départ de ma connaissance artistique. Dans ma connaissance artistique, je considère le monde comme une matière capable d'être changée. Et je la change par mon travail, par mon art. Je vais donc étudier dans notre monde ce que connaissances spéculatives du monde physique, du monde dans lequel je suis, et de ce petit monde que je porte en moi, mon corps. Il y a là une connaissance particulière de ce touche l'être. Seul mon âme. mon imagination.
Deux pas.